I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme chargé cette semaine, on va parler de Resident Evil 2, celui qui va arriver bientôt, celui qui est sorti il y a longtemps, mais qui va arriver bientôt. Enfin bon, bref, on va en parler. The Haunted Island, Killer 7, SNK Anniversary, et enfin, on terminera avec Artifact, le nouveau TCG de Valve. Et puis, la chronique de Jérémy, le com des com, vous connaissez le reste du programme, mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Helio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin. Bonjour. Décroissant. Oh là là, mais ouais, je suis fatigué.
Pas de problème. En ce jeudi,
je suis fatigué. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
Ça va ?
Ça va bien.
Vous êtes en pleine forme ?
Oui.
Vous pouvez tenir ce podcast.
C'est une fin de ce...
À fond.
Une fin d'année un peu épuisante. Mais...
Il y a tellement de notes sur ma feuille que je ne pense pas que je vais m'y retrouver. Mais on va commencer avec toi, Corentin.
Oui.
Avec la grosse news de ces derniers jours, c'est Epic Games. C'est les gens... Et ce n'est pas sur Fortnite.
Non. Epic Games a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière là, en annonçant en fait son store, un store de jeux vidéo donc pour PC, Mac. Vous le savez certainement, mais la distribution de jeux PC est quasi monopolistique avec un Valve qui prend toute la place de vente en dématérialisé de jeux. Et il faut savoir que on se demandait qui allait bien pouvoir concurrencer un jour Valve. C'était vraiment compliqué, il avait pris tellement de place, il était tellement gros, et Epic Games a annoncé que voilà, il allait arriver. C'est vrai qu'Epic Games, il est porté par le succès de Fortnite avec ses millions et millions de joueurs, et surtout il est arrivé avec sa communication en disant bon, eh ben Steam il fait du 30% pour nous, le store, et 70% pour les développeurs. Ça a changé, on va en parler rapidement. Nous on dit que ce sera 12% pour nous et 88% pour les développeurs, ce qui est quand même beaucoup plus favorable aux développeurs. Et même si vous utilisez Unreal Engine,
je pense que c'est le coup de final.
On vous fait pas payer les frais pour Unreal Engine. Unreal Engine, il est gratuit.
5%, ouais.
Et au bout d'un certain chiffre d'affaires, on vous prend 5%. Donc c'est énorme, enfin c'est vraiment très développeur friendly. Oui.
Techniquement, ils avaient déjà un client sur PC Epic.
Oui, bien sûr.
Et du coup, c'est le même. Enfin, ça va être une évolution de celui-là qui va s'ouvrir donc aux productions.
Ce serait bête de pas en profiter.
Je pense qu'ils vont
à la manière de Steam qui a commencé à l'époque Half-Life 2.
Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment un deal très intéressant parce qu'en plus Unreal, c'est quand même le moteur utilisé notamment. Enfin, toutes les grosses productions, enfin une bonne partie des grosses productions utilisent l'Unreal Engine. Grosso modo, t'as Unity, c'est les deux moteurs les plus populaires. Et donc voilà. Et alors ça fait suite à des annonces qu'on avait trouvées bizarres dans la semaine de Steam, qui a annoncé qu'ils changeaient aussi leur modèle de distribution en disant bon bah à partir de maintenant on fait plus du 30-70 au-delà d'un certain chiffre d'affaires. Au-delà de 10 millions de dollars, c'est 25% pour l'éditeur, et au-delà de 50 millions de dollars, c'est 25% pour Valve, et au bout de 50 millions de dollars, c'est 20% pour Valve. Et on se demandait, tiens, pourquoi ils font ça ? De quoi ils ont peur ? Pourquoi ils ont peur que les gros éditeurs se barrent ? Parce que ces mesures-là, ça concerne les gros éditeurs.
Bien sûr.
Les indés, ils font pas autant de chiffre d'affaires.
Et les indés ont besoin des clients de Steam, donc ils vont pas se barrer de Steam. Par contre, les gros.
Qui utilisent les moteurs.
Ceci explique cela. C'est-à-dire que ces annonces-là, c'était sûrement parce qu'ils ont eu vent que Epic allait faire une annonce cette semaine concernant un store parallèle. Il faut aussi savoir
12,88, c'est ça la répartition ?
C'est 12,88, ouais.
Waouh.
Et ils disent, et nous on se fait encore un bon chiffre. Ils font vraiment une free. Free qui était arrivée sur le marché du mobile en disant ah, mais nous on va faire payer vraiment moins cher, mais on va encore faire un profit.
Est-ce que ça peut pas être un bon plan aussi pour les indés qui vont arriver sur une plateforme vides, entre guillemets, qui vont avoir du coup.
C'est
des...
compliqué parce que les indés, ils vont pas amener leurs clients. Ils ont pas de clients à la base. Ils ont pas de clients. Donc, ils peuvent pas ramener leurs clients chez Epic. Ils sont obligés d'aller chercher ceux qui sont sur Steam. Déjà, ils sont nombreux à être sur Steam. Par contre, les gros, et on a vu des Ubisoft et Electronic Arts créer leur propre store être sur Steam et tout ça.
Mais Blizzard, Destiny 2, il est même pas sur Steam.
Mais il y a encore des très gros, Bethesda, etc., qui sont sur Steam. Eux, ils peuvent venir faire les... Ils peuvent aller juste chez Epic, ne plus être chez Valve. Et les gens, ils vont installer le client Epic. Ouais. Surtout que, qu'est-ce qui se passe
Fortnite,
il y a combien de millions de joueurs qui ont déjà un client Epic?
C'est ça, mais moi je l'ai alors que j'ai jamais joué à Fortnite. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et il faut savoir aussi que les indés, ils sont colères, parce que déjà, ils ont vu cette nouvelle répartition progressivement plus favorable dès que tu as beaucoup de chiffre d'affaires. Et ils disent, on a un peu les dindons de la farce dans cette histoire. Et en plus de ça, Steam a changé son algorithme récemment, ce qui fait que les jeux ne sont pas montrés de la même manière sur la page d'accueil de Steam, et les indés sont encore sont relayés dans les bas-fonds de Steam, et ils ont tous constaté une baisse drastique des visites sur leur page magasin. Yes. Donc là, ils sont vraiment vénères, ils savent pas trop comment réagir, ils sont coincés, les pauvres indépendants. Alors oui, ils pourraient aller chez Epic, mais essuyer les plâtres sur ce nouveau store. Alors
ils vont aller chez Epic.
On va voir comment
ils
ça se passe.
Ils vont aller. De toute façon, il y a pas d'exclus.
En tout cas, Epic aura quand même fort à faire, parce qu'il y a quand même encore 100 millions d'utilisateurs quotidiens sur Steam, avec je sais plus 20 millions connectés en permanence sur le client. Donc c'est vraiment énorme. Et donc ça va changer un peu le paradigme PC, et ça fait plaisir. Starbreeze aussi, qui est un petit peu dans la tourmente. Donc Starbreeze, hein, vous savez, c'est Payday 2, c'est l'éditeur de Payday 2. C'est aussi, ils avaient, alors je sais pas si vous saviez, mais ils ont sorti Overkill The Walking Dead. Je pensais qu'il n'était pas sorti, mais en fait si, le jeu est sorti et il a fait un four mais légendaire. Donc c'était un peu l'équivalent multijoueur coopératif dans le monde The Walking Dead.
Mon seul contact avec Overkill The Walking Dead, c'est j'ai regardé la moitié d'une bande annonce.
Voilà. Et non mais
en
c'est...
fait je suis pas allé au bout.
Mais ils ont fait un four, ils ont perdu un max de blé, à tel point que ils se sont mis, alors ce qu'ils appellent dans la parce que c'est une boîte suédoise, en restructuration, c'est l'équivalent de liquidation judiciaire. Et le CEO a été débarqué. Là ils sont en mode on va essayer de sauver la boîte telle qu'on peut. La police a débarqué dans les studios de Starbreeze mercredi dernier, donc le 5 décembre, parce qu'apparemment il y a un des employés de la boîte qui a fait un délit d'initié de légende, en sachant que c'était la merde et qu'ils avaient vendu zéro The Walking Dead, et que il allait l'action, ou en tout cas la boîte allait plus valoir que dalle. Il s'est passé un truc du style délit d'initié, donc on va voir comment ça va se passer, mais je donne pas cher de la peau de Starbreeze dans les prochains jours.
Patrick, des news au Game Awards.
Et oui, vous autres auditeurs du futur, parce que par rapport à nous, vous êtes dans le futur, vous savez ce qui va sûrement être annoncé pendant la cérémonie des Game Awards. C'est devenu un moment qui facilite les prises de parole et surtout les annonces de titres à venir. On a déjà quelques pistes, nous, on est dans le passé par rapport à vous, mais on a déjà quelques infos.
Alors on va voir. Putain, c'est compliqué aujourd'hui.
Si t'as joué un formateur, on a eu quelques infos de notre formateur Twitter.
On est dans le passé, on vous parle du passé, vous êtes dans le futur.
Non, on a appris qu'il y aurait l'annonce d'un nouveau Far Cry qui a été. Il y a un teaser assez court qui dévoile quelques petites infos comme un environnement post-apocalyptique, a priori. Donc ça pourrait tout à fait être un épisode qui se situerait dans l'environnement du 5, en fait, avec donc une continuité de cette notion de fin du monde qui est un petit peu là dans le 5. Moi je suis ravi, Far Cry j'aime bien, je joue toujours au 5. Je joue pas mal en ce moment à la partie arcade où il y a des créations de joueurs, il y a des types qui donnent tout, il y a vraiment des trucs de géniaux, des niveaux western, etc. Donc c'est un jeu que je pratique toujours, et une série que j'aime bien. Il y a eu d'autres annonces, il y a un Dragon Age a priori qui serait en voie de confirmation ou en tout cas de présentation a priori.
BioWare donc
pas. Oui, bien sûr. Mais ce sera pas avant, pas avant 3 ans.
Mais c'était le truc étonnant. La série, elle a quand même, il y a quand même des gens qui aiment bien les Dragon Age.
C'est une série qui a eu des difficultés.
Mais le problème,
c'est par différents.
BioWare a des difficultés. Enfin, de toute façon, ils ont pas.
Ils sont surtout ultra occupés. Ils sont sur un thème là. Ils ont d'autres chats à fouetter.
C'est vrai. Il y a ce truc aussi.
Ouais, oui, alors ça, par contre,
c'est gênant.
Et puis, on parlait de Spyro la semaine dernière avec Camille. Et en fait, on aurait l'annonce a priori qui se confirmerait d'un Crash Team Racing. Ouais. Alors, ça, c'était un jeu qui a une très bonne cote chez les joueurs de l'époque.
Il y a une
vraie communauté qui adore ce jeu, qui était un équivalent de Mario Kart sur PlayStation avec toutes les les figures de Crash et tout son univers. J'enchaîne, on a beaucoup de choses. J'avais noté aussi Minecraft Story Mode qui vient d'arriver sur Netflix, a priori. C'est quand même une des dernières choses produites par Telltale. Donc,
le champ du signe.
Voilà, ce sont des choses qui... Voilà, c'est un souvenir de Telltale. Donc, c'est important, ça vient d'arriver. Et puis, encore des mauvaises nouvelles du côté de Fallout 76 dont on avait parlé la semaine dernière. C'est très difficile. C'est un jeu
c'est
très
gênant.
Compliqué. On en a parlé. J'ai vu que sur les commentaires de l'émission, certains disent même que j'étais un peu gentil avec le titre.
Ça
continue, en fait, ça continue. Et entre deux, je sais plus si on l'avait évoqué, il y a eu le problème de l'édition collector avec un sac qui en fait était...
C'est génial.
Qui avait, voilà, il y avait des joueurs l'avaient réservé, je crois, $200, si je dis pas de bêtises, donc un truc plutôt pas donné, quoi, avec un beau sac en photo, et ils ont reçu un truc très moche qui
Pire
ressemblait
que
pas...
Pire que ça, les influenceurs ont reçu le vrai sac, eux.
Et c'est... Oh ah oui, là c'est pas le même, ils ont eu un truc
ils
à part.
Ils ont eu le vrai sac.
J'avais pas vu passer
le naufrage.
Ah non,
et là,
rien ne va. Rien
et
ne
ça
va.
Continue. Ce matin, j'ai vu passer news comme quoi il y avait une fuite de données personnelles de joueurs. Là, c'est tombé. C'est terrifiant. C'est-à-dire que le jeu, il enchaîne les problèmes dans tous les sens. Ça devient vraiment une date noire pour Bethesda, ce titre. Et il faut vraiment qu'ils réagissent en profondeur. Ça devient très. Il y a une mise à jour qui a dû être faite. Hein. Je crois qu'il y en avait une, le 4 et le 11, il y en avait une deuxième.
Sachant que la vraie mise à jour sera le spin-off de Far Cry 5, hein, soyons clairs.
Voilà, c'est très, 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 très compliqué.
Et dernière annonce sur Firewatch. Quand même.
Oui, qui arrive à priori le 17 décembre, un jeu qu'on, évidemment, sur Switch. Ouais. Oui, sur Switch, hein, c'est important de le signaler. Jeu qu'on vous recommande. Et là aussi, c'est aussi une survivance de Telltale, quelque part, hein, des gens de Telltale, sur des anciens.
Bien sûr,
donc l'esprit Telltale survit sous d'autres formes, sous d'autres manières. Mais
attends,
voilà.
Comment tu peux partir en rando, jouer un jeu de rando. C'est génial.
Oui, c'est génial.
C'est excellent.
Au niveau narratif,
mise en abîme.
C'est un vrai bijou. Si vous ne l'avez pas fait sur PC, sur PS4 ou autre, il arrive sur Switch et voilà, c'est un jeu incontournable.
Alors, le com des coms, rapidement, le com des coms de la semaine dernière, on commence effectivement avec Rella qui nous dit Fallout 76 est une escroquerie. Le mode online d'un jeu sorti il y a 4 ans, techniquement scandaleux, conceptuellement inepte, vendu initialement 70€ à des victimes qui n'ont pas attendu 4 jours la première phase de la braderie qui le mènera inéluctablement à son prix justifié. Gratuit, mais probablement avec des lootbox bien gluantes pour rester dans l'ambiance générale. Et c'est lui effectivement qui a dit que tu avais trouvé un peu gentil alors qu'on n'en a pas forcément dit du bien.
Non, franchement, non.
Mais nous avons Alensan, 50 heures de jeu en multi avec un pote sur Fallout 76. Mais oui, il y en a des gens qui jouent à Fallout 67, on en a parmi nos auditeurs. Alors il y a plein de trucs que j'aime dans le jeu, plein d'autres que je déteste. C'est pas la catastrophe annoncée, mais c'est quand même un gros foutage de gueule de la part de Bethesda, à force d'insister avec leur moteur de merde qui sera réutilisé sur Elder Scrolls 6. Et surtout, le jeu demandait plusieurs bêtas sur plusieurs mois, donc l'exploration, selon Alensan, donc est génial. La scénarisation est pas si mauvaise, le système de perks est très bien.
L'univers,
l'ambiance super sympa.
Bien sûr.
Après, je le laisse, il liste, hein, vous pouvez retrouver évidemment son message dans les forums de Silence on Joue. Il liste les points positifs, les points négatifs.
Bethesda tentait trop que les joueurs eux-mêmes fassent l'animation dans le titre, ça le problème. Et c'est, ça ne fonctionne pas.
Mais non, c'est ça. Il finit par la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce que le fiasco de Fallout 76 va générer chez Bethesda ? Soit on va le laisser mourir, avoir une image de marque pourrie, continuer sur ce qui était prévu et il y aura une un problème aussi d'image de marque, et faire leur No Man's Sky et vraiment bosser dessus.
Oui, parce qu'a priori No Man's Sky, il a vraiment progressé, donc il y a aussi des histoires de jeux comme ça qui évoluent. Quand il y a une vraie crise de ce type, il faut savoir tout remettre à plat et peut-être un autre patch de 50Go à prévoir, mais je pense qu'ils ne vont pas le lâcher, ils ne peuvent pas lâcher
les patchs de 50Go,
une marque comme ça, quoi.
Allez, on retourne, c'est le moment de retourner loin dans le passé. On va retourner, nous sommes en 98.
Quelle année
98
pour le jeu vidéo quand même.
Et sortait donc le numéro 2, le deuxième épisode d'une série déjà culte qui avait déjà marqué tout le monde avec son premier épisode, donc Resident Evil. Le deuxième épisode donc sort en 98 et on découvre deux héros qui sont moins super-héros que dans le premier, Claire Redfield, Léon Scott Kennedy. Et ce Resident Evil 2 va ressortir avec un remake en janvier. Et tu en y as déjà joué, Patrick.
Oui.
On écoute un morceau. What the...
Is anyone here? Jesus.
an order, rookie. You save yourself first.
You save yourself first. Ouais, j'ai mal dit, je sais pas pourquoi j'ai répété
c'est
ça.
Pas grave,
là, c'est pas grave. Bon, Patrick, alors, ouais, alors Patrick qui essaye en avance un Resident Evil en avant-première et tout ça, il est obligé, enfin, vous le connaissez,
d'en
chers
parler.
Auditeurs, il est obligé
d'en
parler.
Parler.
Voilà.
Oui, j'ai eu le plaisir d'être invité par Capcom à prendre en main pendant 3 heures hier, donc Resident Evil 2 qui arrive fin janvier, donc sur PS4, sur Xbox One et sur PC, il me semble. Alors, Resident Evil 2, c'est un titre très important, tu le disais. Il a toute une histoire. Il a eu un développement compliqué à l'époque en 98. On l'attendait impatiemment. Moi, je me rappelle encore de. C'est un des premiers jeux dont je me rappelle qu'il y avait une date bien identifiée. Et je me rappelle appeler mon magasin. Est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'il est arrivé? C'est vraiment une des premières fois où il y avait vraiment une sortie événement d'un titre pour moi. Vraiment, j'en pouvais plus de l'attendre, quoi. Resident Evil 2. Alors, on se méfie toujours de Capcom parce que Capcom, on connaît son habitude à ressortir des remasters, des versions prime, des versions bêta, delta, etc. Là c'est pas le cas, là c'est vraiment pas le cas. Moi j'ai vraiment pris une baffe en fait en le prenant en main quelques temps. On reviendra dessus évidemment à la sortie parce que moi j'ai pu jouer quelques heures, donc c'est vraiment un ressenti comme ça d'une prise en main de limitée dans le temps. Encore une fois, donc c'est un titre important. Moi je l'ai à peu près sur toutes les versions Resident Evil 2. Il est sorti à un moment en plus charnière de transition, hein, en 98. Moi je l'ai fait sur Dreamcast, je l'ai fait sur PlayStation à la base, sur Nintendo 64 aussi. Il y a une version N64 assez rare, une belle version. Moi, je suis assez fier d'avoir cette cartouche que je mets dans ma console, parce qu'ils ont fait tenir à l'époque le jeu sur une cartouche de Nintendo. Voilà, c'est un jeu emblématique parce que c'est vraiment le jeu qui fait décoller l'univers Resident Evil qu'on avait connu dans le premier. Et puis là, il donnait une ampleur nouvelle parce que
Umbrella Inc.
Évidemment. Et puis surtout l'ouverture sur Raccoon City, c'est-à-dire qu'on on en parlait dans le premier, mais là, on suivait donc Leon Kennedy et Claire Redfield, la sœur du héros du premier, qui arrivait dans la ville de Raccoon City. C'était première journée de travail pour Léon, donc c'était pas terrible, pas beaucoup de chance. Invasion de zombies, la ville qui tombe en ruine, et puis évidemment tout le carnage qu'on connaît. Alors oui, mais je craignais un petit peu un côté remaster de Resident Evil 2. On a eu des très belles choses, hein. Il faut se rappeler qu'on avait eu les remasters du premier
mais
Resident
oui,
Evil,
mais oui,
qui était magnifique sur GameCube. Le Zero aussi, qui avait après été ressorti sur PlayStation 4 et compagnie. Alors là, on n'est pas du tout sur ce format de reprise, remaster qui reçuit, qui remet à jour le visuel. On n'est pas là-dessus. On est vraiment sur une réappropriation vraiment de Resident Evil 2, de la thématique. Moi, franchement, après quelques heures de jeu, je peux pas tout vous dire. Je me suis engagé à garder certaines choses secrètes. Il y a des choses que je peux pas vous dire et ça
scandale.
Parce qu'il y a vraiment il y a vraiment des choses moi qui m'ont marqué en quelques heures. Où on en reparlera évidemment lorsqu'on fera le test, la chronique du jeu complète. Mais il y a vraiment des choses que j'ai trouvées très réussies en termes de choix. Sur des personnages, des choses qui sont vraiment moi qui m'ont marqué. Alors moi, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Resident Evil, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui la série, quand on la regarde, elle est un peu divisée en plusieurs branches, hein. Il y a les jeux, comme je vous disais, les remasters qui suivent vraiment même la mise en scène originale de l'époque, avec cette vue troisième personne un peu raide, un petit peu rigide. Et puis on a le côté plus actionneur qui est né avec Resident Evil 4, le 5, le 6, qui partait vraiment sur une dynamique d'action pure et dure, où c'est vraiment du jeu d'action avec une réussite vraiment au niveau des sensations, mais qui n'avait plus forcément cet aspect narratif qu'on peut aimer dans les premiers Resident Evil, où on avait vraiment des atmosphères, des énigmes, des choses beaucoup plus porté sur l'action-aventure en bonne et due forme.
Et puis le 7, qui était un truc d'ambiance absolument incroyable.
Il avait une ambiance de fou. Pour moi, je le mets un petit peu à part, parce qu'il s'écartait un petit peu de l'ADN pur et dur de Resident Evil. Il était passionnant aussi pour ça, c'est qu'il creusait vraiment une nouvelle dynamique, une nouvelle forme d'horreur aussi, une nouvelle forme de mise en scène avec cette vue subjective qui, en plus, en VR, prenait une puissance incroyable. Là, ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant avec Resident Evil 2, c'est qu'il creuse en fait une notion de fusion pour moi. C'est vraiment un titre fusion qui adopte le côté troisième personne qu'on a depuis Resident Evil 4, 5, 6, donc plutôt dynamique, plutôt avec une exploration libre en troisième personne. tout en gardant, en réintégrant un côté action-aventure qui est vraiment propre aux origines de la série. Donc, pour moi, c'est peut-être le premier épisode qui revient vraiment à une sorte de mix comme ça entre qui abrite à la fois donc la vue à la troisième personne plutôt action
donc on est
et
plus,
en même temps
on n'est plus en caméra fixe.
Non, on est en troisième personne.
Et ce qui fait que parce que Resident Evil 2 pour ceux qui s'en souviennent quand même, la caméra fixe du survival horror de l'époque, c'était le hors-champ. C'était le hors-champ, donc on c'était la peur du bruit, du
Capcom.
Qu'est-ce qui se passe là où la caméra
ça,
ne voit pas.
Il y a toujours ça. Je vais pas tout vous en dire, mais il y a aussi la peur du bruit. C'est très très bien mis en scène dans le passage que j'ai fait. Il se passe des choses qui sont parfois pas dans notre champ de vision, mais qu'on entend. Et ce soit un râle de zombie ou des pas d'un personnage qui se rapproche, c'est vraiment stressant. Et pour moi, vraiment, moi qui apprécie la série, je trouve que en fait, on pouvait s'attendre à un remaster, donc quelque chose de commercial qui rebondit sur un Resident Evil 2 qui a 20 ans. Bon, c'est facile, on le remet un petit peu à jour et on profite un peu de la nostalgie. Pour moi, non. Je pense que on pouvait craindre un titre pas anecdotique mais commercial. Moi, je pense, pour ce que j'ai vu, je pense qu'on va être devant un épisode majeur de la série, parce qu'il va être vraiment, il va être à la fusion entre le côté troisième personne et le côté action-aventure. Et moi, c'est ce que j'ai vu, moi, ça m'a vraiment, vraiment plu.
Reste un point, c'est que je n'arrive pas à vraiment comprendre pourquoi ne pas faire un nouveau Resident Evil. Enfin, après, je comprends, il y a la nostalgie et tout ça, mais si on prend tout, on change tout et tout ça, pourquoi ne pas raconter une nouvelle histoire pourquoi ne pas faire avancer la saga? Pourquoi il y a toujours ce côté.
Je pense
même,
que ça va être justement le fil sur lequel va jouer ce jeu. Et je pense que moi, ce que j'en ai vu, c'est plutôt prometteur. C'est que je pense qu'il va reprendre pour les fans plein de choses du 2 qui nous ont vraiment marqué à l'époque, parce qu'encore une fois, c'était un titre emblématique. Mais il va aussi apporter pas mal de choses en termes de narration, en termes de personnages. Il y a plein de nouveautés en fait qui vont, je pense, venir enrichir la narration. Et je pense qu'il va justement jouer sur ce côté, justement, enrichir un jeu qui était déjà tellement emblématique.
Il faut savoir que Resident Evil 2, contrairement au 1 qui a été remaké plein de fois,
c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas revu.
Ça fait des années
et
des années que les fans le réclament et que quand il a été annoncé, ça a vraiment fait souffler de soulagement plein de joueurs. Et là, pour le coup, je trouve Capcom courageux de ne pas simplement avoir fait un remaster comme on en a vu pour le 1, mais de vraiment avoir dit bon, on prend le 2, on prend le scénario du 2, le setting du 2, donc c'est Raccoon City. Hein, si
oui, c'est Raccoon City.
Raccoon City avec les débuts de Léon, c'est aussi
bien
l'origine
sûr,
de Léon qui est un
personnage
très important de la saga, et on va en faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire c'est la nouveauté dans la nostalgie. Ils essaient de concilier quand même deux publics, un public qui va découvrir Resident Evil 2, ce qui est pas évident, et avec le 7 qui mine de rien, faut le reconnaître, qui était pour moi plutôt une réussite d'un point de vue artistique,
et qui cherchait autre chose, qui expérimentait d'autres univers, d'autres ambiances,
mais il s'est pas vendu. Enfin, il faut le dire les choses, il a frustré une partie des fans. Les nouveaux joueurs ne voyaient pas trop l'intérêt d'aller s'aventurer dans ce Resident Evil 7 qui pensait un peu déconnecté. Voilà, quelqu'un qui arrive et se dire bon, est-ce que je vais attaquer le 7e épisode de cette série aux ramifications scénaristiques impossibles, je sais pas, alors qu'en vrai
et
il sort très bien, il est et donc je pense que là il cherche vraiment à renouer et à ménager la chèvre et le chou avec ce
et le 2 il avait vraiment ce côté replay value. C'est un des premiers titres qui vraiment t'encourageait à le refaire, parce qu'on pouvait jouer les deux personnages, refaire le scénario avec des imbrications différentes selon les choix, etc. Là, a priori, ça sera toujours au programme. Donc on retrouve à la fois, moi c'est vraiment le pied que j'ai pris hier, c'est dans ces quelques heures j'ai retrouvé juste ces petits moments de ah, mais oui, ça je me rappelle, c'était comme ça, machin. Et en même temps, t'es dans un jeu neuf. C'est un peu comme si le jeu était fait aujourd'hui, en 2018-2019, donc avec vraiment, enfin visuellement. Mais moi, je le trouve, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le 7 avait déjà des fulgurances graphiques, mais plutôt terreuses, plutôt sombres. Plutôt... Là, je trouve que là, ce que j'ai vu hier, il y a un côté photoréaliste glaçant. Moi, il y a des fulgurances de mise en scène et de jeu de lumière, moi, que j'ai trouvé vraiment impressionnant. Et le zombie de base qu'on croise régulièrement dans le jeu, il est terrifiant. Enfin, je trouve qu'il a un côté cru. Je pense que ça va pas être un jeu à mettre entre toutes les mains.
Mais ce que tu dis là, en fait, t'es en train de décrire un vrai remake. C'est ce que devrait être ce qu'on devrait appeler un remake.
Une réappropriation, en fait, une façon de relire le jeu.
Un remake au cinéma, c'est tu prends un setting, un scénario, tu prends des libertés et tu refilmes.
Sachant qu'on est quand même dans la particularité du jeu vidéo par rapport justement à d'autres formats de création où on va faire une remise en image. Là, tu remarches. Genre que le jeu vidéo, tu as une expérience de jeu, c'est que c'est toi qui es acteur et t'as vraiment cette sensation de remarcher dans les décors de l'époque, mais avec une toute nouvelle mise en scène et plein de nouvelles choses. En fait, le jeu est complètement différent, nouvelles énigmes et tout. Donc autant vous dire que je suis vraiment hypé. Moi, j'attends. On reviendra évidemment dessus. Ouais.
J'ai l'intuition qu'on va revenir
lentement,
dessus. Je sais pas pourquoi.
Fin janvier. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai vu.
On va faire une émission entière.
C'est très très emballant, vraiment.
Un petit mot, cher Corentin, sur un... Je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais oui. Tu vas nous en parler sur The Haunted Island.
Oui, alors, tu sais, c'est ces moments où je me dis, tiens, de quoi je vais parler dans ce temps joue, et du coup, je cherche des jeux, donc je fais ma petite veille. Hein.
Ouais.
Et là, je vois passer sur donc, des sites comme Rock, Paper, Shotgun, Kotaku, des jeux, des fois. Et là, j'ai vu passer ce jeu. The Haunted Island, Frog Detective Game, qui est, on va dire, une espèce de Scooby-Doo qui dure une heure. Où tu incarnes Inspecteur Frog, qui est donc une grenouille. Alors, c'est pas le meilleur détective, parce qu'en fait, on l'appelle, on avait besoin du meilleur détective, mais Détective Omar était déjà pris. Donc, on a appelé Détective Frog, et qui dit, oui, non, mais t'as raison, Détective Omar, il est vraiment très fort, mais bon, là, il n'y a que moi de disponible, donc c'est parti. Et on va enquêter sur une île, parce qu'il y a un monsieur qui a acheté une île, en fait, et il y a un fantôme. Voilà, donc il faut trouver d'où viennent les bruits. C'est très Scooby-Doo. Et en fait, j'ai été très étonné. Donc, c'est la première personne, on se déplace sur une île, on va parler à des gens qui nous donnent des objets, qu'on échange contre d'autres objets, on résout des choses, on discute, on essaie de comprendre ce qui se passe, on résout une enquête, ça dure moins d'une heure. Et j'ai été très surpris, en fait, très content aussi de voir que ce genre de format de jeu puisse exister aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, qui avec nos vies qui sont très compliquées, qui sont très remplies finalement, où on se dit, bon, Valkyrie Chronicles, là je l'ai fini hier, hein, Valkyrie Chronicles 4, que j'avais parlé il y a des semaines, et puis voilà, il m'a pris quand même mes 25 heures et tout, et c'était long. Là, j'ai pris le jeu, je l'ai fini, en une heure c'était fait, ça m'a pris une soirée, j'étais très content. Donc en fait, je voulais juste signaler que ce genre de jeu existait aujourd'hui sur Steam, sur itch.io, qu'il y a des formats de jeux qui sont vraiment très courts et qui peuvent vraiment nous occuper une soirée. D'autant que celui-là est formidable parce qu'il a un humour vraiment très marrant. Il mange zéro pain. C'est vraiment... Il n'invente rien d'un point de vue gameplay. C'est juste une petite expérience qui coûte en plus... alors, j'ai acheté 3 euros, ce qui était en promo, mais il coûte 4 euros qu'on peut mettre... Alors, c'est en anglais, par contre. Ça, c'est le seul... c'est le seul défaut. Mais après, équipe de 3 personnes en Australie, tu peux pas non plus leur demander la lune. Hein. Mais voilà, je suis encore d'autant plus heureux de voir que ce médium qu'est le jeu vidéo permet aussi maintenant, comme on fait des petits courts-métrages qu'on va balancer sur YouTube, comme on peut faire, je sais pas, de la peinture et la balancer sur son blog, comme on peut faire ces petits groupes musicaux qu'on va ensuite balancer sur Bandcamp, aujourd'hui on peut ouvrir Unity, réunir un pote à la musique, un pote au code, et toi tu vas te mettre à écrire et à faire les graphismes de ce petit jeu avec des animaux trop mignons, et tu vas faire une aventure d'une heure extrêmement rigolote, à la Scooby-Doo, très très personnelle, qui est sympa comme tout, dans laquelle tu vas planquer des photos de ton gamin parce que c'est rigolo de le coller sa tête sur un insecte, sur une fleur. Et voilà. Donc, si vous êtes intéressé et si ce genre de petite expérience narrative débile, qui mange pas de pain encore une fois, hein, ça pisse pas très loin, mais c'est très très rigolo, ça s'appelle The Haunted Island, The Frog Detective Game. C'est par Grace Bruxner. Celle qui a conçu la chose, on va dire, sur l'aspect design, écriture. Et moi, ce que j'adorerais, puisque ça s'appelle The Haunted Island, virgule, A Frog Detective Game, c'est qu'il en sorte régulièrement et que je puisse balancer mes 3 à 4 euros à chaque fois et que je sais que je vais avoir une aventure du deuxième meilleur détective, faut pas déconner. voilà.
Non, mais
c'est,
il fait envie, hein.
Je suis très content de voir que de plus en plus on peut avoir ce format-là. Ouais. Je suis sûr qu'elle a fait ça sur son temps libre, la dame qui a fait ça là. Et du coup, ça montre aussi que les barrières s'abaissent de plus en plus et que de plus en plus. Et là, honnêtement, et je finis avec ça, je me suis baladé sur itch.io et pareil, j'ai acheté un jeu par-ci, un jeu par-là, 5 balles par-ci, 5 balles par-là. À chaque fois, ça me prenait 1-2 heures. Et en fait, j'étais très, voire même rien du tout. Enfin, en termes de prix, je veux dire, ça m'a rien coûté. Et je suis très content de voir que on a vraiment une scène indé mais qui est vivante, mais on n'est même plus dans l'indé, on est dans l'hyper indé qui est ultra vivant.
Non, ce qu'on appelle l'indé en fait. En dehors de l'aspect mot-valise que c'est devenu.
C'est devenu l'indé aujourd'hui en fait. Ce qu'on appelle indé aujourd'hui, c'est plutôt du petit calibre, on va dire.
Bah, c'est ce qu'on appelait du double A avant, enfin finalement.
Je sais pas trop. Tu vois, pour moi, un Dicey Dungeon, ça reste de l'indé quand même.
Bien sûr, mais il y a plein de choses
aussi. Firewatch, ça reste un indé par exemple.
Mais voilà, je suis content qu'on vive quand même dans ce monde. Alors, ok, il y a beaucoup de développeurs qui n'arrivent pas à vivre de leur art, mais en même temps, on a quand même une des scènes, on n'a jamais eu une scène aussi foisonnante de jeux vidéo, et les joueurs sont les premiers gagnants dans cette histoire. Après, il faudrait trouver un moyen pour que tous les développeurs puissent être bien rémunérés. Ça, c'est une autre histoire, hein, Epic.
C'est le moment d'accueillir Jérémy Gletskin et sa chronique jeux vidéo, sa 12e chronique. Il est là toutes les semaines et ça nous fait bien plaisir. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Comme il commence un peu à faire froid, on va parler cette semaine de Snow Time, où les joueurs incarnent des héros envoyés par leur village pour cueillir des fruits, des espèces de pommes de pin, et surtout pour faire en sorte que les autres héros des autres villages n'y arrivent pas avant eux. Au centre de la table, il y a un plateau qui représente un grand arbre enneigé, découpé en 7 sections, 7 étages, 7 niveaux. Chaque joueur reçoit un set de cartes de 1 à 7 de sa couleur. Oui, je sais, ça fait beaucoup de sets. Il reçoit aussi 3 cartes spéciales avec des pouvoirs spéciaux. Dans Snow Time, on peut marquer des points de 3 manières différentes. La première, lors des combats, quand on fait tomber ses adversaires de l'arbre. La seconde, en ramassant des fruits. La troisième, le joueur positionné le plus bas dans l'arbre à la fin d'un tour reçoit de la mana. Le tour fonctionne de la manière suivante. On lancera 2 dés pour placer aléatoirement 2 fruits dans 2 étages de 1 à 6 de l'arbre. Chaque joueur choisit une de ses cartes, numérotée de 1 à 7, ou une de ses 3 cartes spéciales dont 2 sont à usage unique. La troisième vous permettra de récupérer des cartes que vous avez perdues lors des tours précédents. Les joueurs auront donc le plus souvent une carte de 1 à 7 devant eux, qu'ils dévoileront simultanément. Ce qui annoncera donc à quel niveau de l'arbre chaque héros viendra s'accrocher. Et c'est là que ça bataille. On va résoudre tous les étages en partant du plus haut, le 7ème. Si un héros est accroché tout seul au 7ème, il n'y a pas de problème, il reste là. Par contre, s'ils sont plusieurs, ils se battent, ils tombent tous les deux, chacun obtenant un point pour avoir fait tomber un adversaire. Quand un héros se retrouve tout seul à un étage, il fait tomber tous ceux qui sont à l'étage immédiatement en dessous de lui. Il marquera donc un point pour chaque chute d'adversaire. Et ainsi de suite, on résout les combats jusqu'au premier niveau. Les joueurs se retrouvant forcément seuls à des étages où se trouvent des fruits peuvent les cueillir. Puis on attribuera un point supplémentaire à celui qui se trouvera le plus bas dans l'arbre. Le but du jeu sera donc de deviner l'intention de ses adversaires, d'anticiper les cartes posées, de marquer un maximum de points et d'être aussi opportuniste que possible. Les illustrations sont très jolies, il y a une vraie patte. Un mi-chemin entre l'étrange Noël de Monsieur Jack et Kung Fu Panda. 6 mi-chemins il y a. Le matériel est d'une très bonne qualité, très agréable, très beau, avec ses petits totems sculptés, ses couleurs froides et cette ambiance très particulière. Je rappelle le nom du jeu Snow Time par Frank Meyer, illustré par Nayad, de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes, annoncé à partir de 10 ans. C'est édité chez lui-même, un jeu qui ressemble vraiment à aucun autre et qui vous fera passer un très bon moment. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux complètement multiplateformes. Bye bye!
Ciao Jérémy, à la semaine prochaine! Et puis, bah, c'est quoi le lien, hein? C'est quoi le lien entre Resident Evil 2 et le jeu dont on va parler?
Shinji Mikami peut-être, hein.
Mais forcément, forcément, le premier, les jeux à... Non pas le premier jeu de Suda 51,
non, pas le premier jeu,
mais le premier jeu à atteindre l'Occident. C'était en 2005 et il s'appelle bien sûr Killer 7. Maître, on est dans le pétrin.
Oui, maître, on est dans le pétrin. Ouais, pas premier jeu de Suda 51, mais à mon sens quand même magnum opus, enfin premier, ouais. Premier gros jeu de Suda 51. Il a fait d'autres choses pas si mal après ça, mais enfin à mon sens il a pas fait mieux quoi. Il a pas fait mieux que Killer 7. À mon sens, encore une fois, il y en a d'autres qui diront que c'est No More Heroes son magnum opus, mais on peut en débattre de ça, c'est pas un problème. Donc Killer 7 à l'époque sorti par Capcom, hein, qui faisait partie, je sais pas si tu te rappelles
si,
Patrick, du Capcom 5, 5
bien sûr,
absolument.
Le Capcom 5,
il y avait quoi, il y avait
Resident Evil,
PN03, Resident Evil 4, absolument.
Non, le 4.
Ouais, le 4, absolument.
Ça, c'est le 4 ouais, qui était
Full Joe.
Et oh, c'était bien ça.
Killer 7. Il faudrait qu'il le ressorte aussi sur PC, Beautiful
c'était
Joe.
Bien,
ouais, ouais. Hideki Kamiya, hein, le post Devil May Cry. Hein.
C'est ça. Ouais. Et
Hideki Kamiya aussi, un réalisateur de Resident Evil 2. Bah,
on est sur une, c'était la soupe Capcom, Clover,
c'était les rois du monde
ensuite,
à l'époque.
Voilà, Soper. Et donc, Grasshopper Manufacture sort un de ces jeux du Capcom 5, Killer 7, qui est, on peut le dire, un jeu qui est étonnant. Enfin, c'est un ovni. C'est quelque chose qui est...
À tous les points de vue.
Difficile à décrire. Je pense que c'est ce qui marque le plus rapidement. C'est quand on le voit graphiquement, ce jeu-là, il est en cel shading, mais en même temps, un cel shading qui n'est pas utilisé pour du cartoon, comme on pouvait le voir avec Wind Waker. Je sais plus si c'était avant, après, mais bref. C'est-à-dire que le cel shading, c'est quelque chose qui est plutôt amené pour quelque chose d'enfantin, quelque chose de doux. Là, pas du tout. C'est pour amener quelque chose de glauque, de sanglant, de bizarre hein, dans l'ensemble. Ouais. Quand on joue à Killer 7, on n'est pas à l'aise. On est vraiment pas à l'aise. Et donc, graphiquement, il est fort, mais aussi dans la manière dont il est mis en scène, Killer 7. C'est-à-dire que donc on incarne ce, comment on pourrait dire, ce clan d'assassins, le Killer 7, où il y a grosso modo 7 assassins plus le chef qui n'est pas compris dans les 7. Donc le clan des Smith, avec à la tête Arman Smith, qui est une espèce de, comment dire, une espèce de pasteur chelou dans une chaise roulante qui manie le fusil anti-tank, voilà. Et en dessous de ça, tu as donc une ribambelle d'assassins au profil très différent. Donc on a Dan Smith, c'est un peu le réservoir d'Hobbs.
C'est des assassins ou des personnalités, ouais. Ou des personnalités multiples.
On ne sait pas trop Tarantino, ce qui se passe.
Ouais. Tarantino-esque.
Ah non, mais voilà, merci, tu m'enlèves les mots de la bouche, mais c'est très Tarantino-esque. Mais voilà, donc il y a Dan Smith qui est une espèce de réservoir d'Hobbs sur pattes. On a K.E.D. qui est une meuf en comment on appelle ça, en nuisette, tachée de sang, comme si elle venait de dégorger quelqu'un. On a un type Kevin qui est shirtless, enfin sans qui est, on voit et qui est tout hors ce poil, il lance des couteaux, il parle pas, il se rend invisible. On a Con, le jeune chinois qui court très vite et qui est aveugle et qui tire avec ses deux flingues. On a Coyote, c'est le voyou portoricain qui crochette les serrures, et on a bien sûr, et c'est là encore une fois on est dans du Tarantino pur jus, on a Masque de Smith qui manie le double le double lance-grenade, qui est un luchador, il fait de la lucha libre, tout ça, et il fait des German suplex à des cailloux dans la street. Ah, et puis on a aussi Garcian, bien sûr, on va dire l'homme qui fait la liaison entre les contrats et le gang, et qui est très bien sapé, toujours avec sa mallette, et qui va récupérer les corps quand il y en a. C'est-à-dire, si un des membres de Killer 7 meurt, il va récupérer les corps.
Mais
voilà.
C'est marrant que vous citiez Tarantino,
complètement Tarantino.
Oui, mais c'est Tarantino. Moi, mon premier abord avec Killer 7, ça me faisait penser à David Lynch.
Je suis d'accord, c'est à mi-chemin, ouais, je suis entièrement d'accord.
Les couleurs sur le...
Et sur ce truc très...
surréaliste.
Voilà, très éthéré aussi.
Bah, enfin, la room, oui, voilà, on se trimballe dans... On va peut-être reprendre depuis le début quand même, parce que ça fait partie du gameplay, mais grosso modo, c'est un rail shooter où on choisit là où on va, grosso modo, et on choisit son rythme. C'est-à-dire que votre personnage est loqué sur un chemin, et en appuyant sur une touche, on avance... Et en appuyant sur une touche, on se retourne et on peut avancer dans l'autre sens. Et de temps en temps, on a des embranchements à choisir. Par moment, on entend un rire. C'est les Heaven Smiles, qui sont les principaux ennemis du Killer 7. Ce sont des espèces de zombies qui, dès qu'ils vous touchent, explosent. Et donc, dès qu'on entend un rire, ce qui sous-entend qu'il y a un Heaven Smile qui est dans le coin, on s'arrête, on appuie sur la touche en fait, de visée et on passe à la première personne. Et là, c'est du pur shooter. On doit tirer sur les zombies. Les zombies ont un point faible. Le mieux, c'est de viser le point faible pour les faire exploser d'un seul coup et récupérer un maximum de qui va servir à diverses choses, mais bon, parfois on est un peu pris dans la panique et on tire un petit peu au hasard, enfin on tire pas sur le point faible, et donc de temps en temps on va croiser ces fameuses Arman's Room qui sont les moyens de monter les capacités de ces personnages ou alors sauvegarder. Et là, je te rejoins sur David Lynch. C'est-à-dire que ces Arman Room, en fait, c'est des portes un peu aléatoirement placées, pas aléatoirement placées, mais c'est des portes au hasard dans les bâtiments ou même en plein désert, il va y avoir une cabine de toilette et on va rentrer dedans. Et en fait, ça sera la salle de Arman qui est en fait le mobilhome d'un des personnages du jeu. Et en fait, on peut y accéder dans plein de portes. C'est un peu comme la Red Room, je crois que c'était la Red Room dans Twin Peaks, par exemple. Oui, c'est un peu l'équivalent. On pouvait y accéder aussi de différents endroits et qui était immuable, toujours la même, avec qui obéissait à des règles bien particulières. Donc là, je suis absolument d'accord avec toi. Mais là, je vais plutôt rejoindre Patrick sur l'aspect Tarantino, parce qu'on retrouve toute la thématique de Tarantino. Donc, la violence gratuite, stylisée, exacerbée et fascinante. Le sang omniprésent partout, les douches de sang à la japonaise. Pour moi, c'est le Kill Bill,
c'est
vraiment.
C'est
complètement décomplexé, mais c'est stylisé. C'est-à-dire, on ne peut même pas être choqué par cette violence, tellement
Elle n'est pas réaliste.
Ouais. On a aussi des thématiques, voilà, la mafia, les complots gouvernementaux, le western, la lucha libre, le film de Yakuza. On a vraiment plein de thématiques.
C'est marrant ce que tu me dis, justement, sur le rapport à la violence. Enfin, tu vois, je parlais de Resident Evil 2 tout à l'heure, qui, justement, va vers le photo réalisme. Ouais. C'est pour ça que je vous parlais des zombies qui sont très impressionnants, parce qu'on a une qualité limite... on a l'impression de voir un film en temps réel. Du coup, on n'a pas le même rapport forcément au... Là, c'est complètement l'opposé, finalement. On est sur quelque chose de complètement BD, presque.
Je pense... Ouais, alors, il y a... En fait, c'est comme si Resident Evil essayait de s'approcher du cinéma par le jeu vidéo et si Killer 7 essayait de s'approcher du cinéma par éventuellement le comics.
Ouais,
c'est
le comics,
c'est un bon point.
Voilà, en tout cas,
mais dans la mise en scène, on est vraiment... On est vraiment dans du cinoche, quoi. C'est donc déjà, enfin moi je compare vraiment toujours ce jeu à Kill Bill tellement il y a de points communs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ces ces arcs. C'est-à-dire que dans Kill Bill pareil, il y a des arcs. Il y a l'arc western, l'arc yakuza, l'arc voilà. Et ben là c'est pareil. On a différents chapitres avec différentes ambiances. On va se retrouver dans, alors pas au Japon, mais dans l'équivalent d'un Japon. On va se retrouver dans un restaurant de sushi où voilà, ça sera vraiment tatami, porte en papier. Il y a d'autres moments. On va se retrouver en plein désert texan. Ça sera pas les mêmes musiques, ça sera pas les mêmes cinématiques. C'est-à-dire que même dans les cinématiques utilisées, ce sera pas la même chose. C'est-à-dire que dans certains chapitres, on aura des cinématiques avec le moteur in-game du jeu. Dans d'autres cinématiques, ils vont demander à un studio d'animation d'animé japonais de nous le faire, comme dans Kill Bill où il y a des phases d'animation pareilles avec le, c'est Orenishi je crois dans Kill Bill. Et du coup, on a aussi les phases donc dans western où c'est un autre style graphique avec beaucoup d'aplats noir et blanc. C'est vraiment chouette. Et on est vraiment dans cette, à chaque fois, une proposition graphique, une proposition stylistique et une proposition musicale. Alors, en fait, j'ai joué à ce jeu et j'ai fait, mais ces musiques, je les connais. Pourquoi je les connais ? C'est un jeu que je joue depuis 2005. Ça fait 13 ans que je joue à ce jeu. Pourquoi ces musiques m'évoquent autre chose maintenant ? Parce qu'en fait, il y a 4 ans, j'ai joué à Danganronpa et bordel, c'est le même compositeur. Ah. Et maintenant, ça m'est seulement venu. Je fais, mais évidemment que c'est le même compositeur. Et en fait, les musiques, pareil, sont extraordinaires. Pareil, des ambiances différentes. Tout est très cohérent d'un point de vue de direction artistique, de A à Z. La bande-son est vraiment chouette. Hein. Je la recommande à quiconque a aimé les musiques de Danganronpa, qui sont peut-être un petit peu acides, un petit peu, un peu bruitistes par moments, un peu bruitistes électroniques. Faut apprécier. Mais moi, ce que j'apprécie vraiment dans ce jeu-là, bon... Le scénario, on peut en reparler. Il y a des twists qui sont bien amenés, notamment sur la fin du jeu où on t'explique des choses. Mais dans l'ensemble, on est sur le syndrome Metal Gear avec un scénario trop complexe pour qu'il touche qui que ce soit. Mais par contre, sur la relation qu'ont les personnages les uns entre les autres, qu'ont les personnages entre eux et le monde, entre eux et eux-mêmes aussi, parce que évidemment, il y a des histoires de personnalité là-dedans, donc on va pas en dire plus. Mais je trouve que ça, c'est bien amené. Par contre, tout l'aspect genre, oui, c'est un complot de l'ONU avec un parti du Japon qui veut tuer. Il y a une guerre souterraine entre le Japon et les États-Unis, ça, on s'en fout dans l'ensemble. Pour ce qui est du reste, le jeu est ultra bien porté.
C'est incroyable. Alors moi, je participe pas beaucoup parce que j'ai juste fait le début pour voir à quoi ça ressemblait quand tu as dit que tu allais en parler. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir à retrouver. Et le portage est incroyable. On a toujours voulu jouer à Killer 7 avec cette qualité. Mais c'est vrai, on s'imagine aussi que le portage devait pas être très compliqué. Alors, ils ont fait un super boulot, hein, mais on est sur ce qu'on appelait à l'époque du vectoriel ou des choses comme ça, avec des aplats dégradés de couleurs. C'est ça qui faisait aussi la particularité, c'est qu'on n'était pas en pur aplat de couleurs. Il y avait cet aplat dégradé un peu dégueulasse au dégradé Photoshop, tu sais, qu'on fait avec un gradient Photoshop. Enfin, c'était
il choque aussi dans l'aspect graphique, ce jeu.
Mais ça crée une ambiance assez unique. Et ça a été une expérience assez incroyable de retrouver ce gameplay complètement dingo, c'est-à-dire que c'est un gameplay qui n'a jamais été utilisé ni avant ni après. Il faut voir que on appuie sur A pour avancer, pour courir. Ensuite, une fois qu'on entend un rire, on appuie sur la gâchette. Tu savais, la gâchette qui normalement permet de sortir son arme, mais c'est pas avec cette gâchette, c'est la gâchette de tir, donc c'est la gâchette droite qui permet de sortir son arme, alors que normalement c'est la gâchette gauche sur les jeux de tir. Avec la gâchette gauche, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que les ennemis sont invisibles. Donc on doit les scanner d'abord avec la gâchette gauche, et une fois qu'on les a vus, on voit les ennemis qui ne nous tirent jamais dessus.
Non, ils avancent doucement.
Il faut les supprimer avant qu'ils arrivent, avec le bouton A, celui qui nous permet d'avancer. Ce qui fait qu'il faut se mettre dans un état de jeu propre à Killer 7. Je ne peux pas dire état d'esprit, mais c'est un état de jeu qui est propre à Killer 7. En fait, j'ai eu des souvenirs de gameplay.
Ouais.
J'ai eu des souvenirs, c'est rare. Hein.
Des matériels enfin, de prouve de gameplay.
Mais voilà, on a des souvenirs de plutôt d'univers, plutôt scénaristique, plutôt des souvenirs d'ambiance sur les jeux vidéo. Si tu me demandes Red Dead Redemption le premier, je peux te sortir plein d'ambiance, je peux pas te sortir le gameplay.
Il y a rien de contextuel dans Killer 7. Chaque touche a sa fonction.
Et là, j'avais un souvenir de gameplay qui est revenu à la surface. Ça m'a fait très bizarre.
Mais c'est vrai, et en plus, ça marche. Parce qu'on pourrait dire oui, bon, ils ont fait n'importe quoi parce qu'ils sont pas allés dans
Aussi un peu l'impression au au début, en tout cas.
Ouais, ouais, mais en vrai...
en vrai, ça se tient.
Tout, ouais. tout a du sens dans le gameplay de Killer 7. Ça a été réfléchi quand même. Ils avaient une proposition. Et ce qui est très fort... Alors, c'était peut-être plus facile à l'époque aussi, hein, où c'était peut-être moins établi la recette classique du FPS-TPS.
Et il y avait moins de touches sur les manettes.
Oh, le GameCube, il y avait quand même pas mal de touches. Hein. Mais par contre, là, on a un jeu avec chaque touche a une fonction et pas d'action contextuelle, par exemple. Et du coup, ce qui permet en fait de maîtriser son jeu, même si c'est compliqué et un petit peu alien au début, on le maîtrise, au bout d'un moment, on le maîtrise.
Tout à fait.
Et t'as raison, et je suis assez admiratif de ce jeu-là aussi pour cet aspect-là. Donc, pour ce qui est du portage, rapidement, et on finira là-dessus, donc le portage graphiquement est magnifique. Parce que tout le travail avait été fait à l'époque. Ceux qui ont pu y jouer sur Dolphin en émulation, vous aurez quelque chose d'aussi propre. Hein. Sauf que là, c'est en HD.
Dolphin, donc...
L'émulateur, pardon, GameCube.
Je parlais du nom de code de la...
Oui, bon, je ne me cache pas derrière le petit doigt. Mais tu as raison de préciser, c'est le l'émulateur. Avec option 16/9, ils ont mis du 16/9 quand même, ce qui n'était pas forcément évident.
Est-ce que le jeu était taillé 4/4 Il était 4/4 Et du coup, il a été re...
Moi, je trouve qu'il passe très très bien en 16/9.
Oui, il passe très bien en 16/9.
C'est très agréable.
Ils n'ont rien à retirer, ils l'ont juste...
Tu peux même jouer en 4/4 si tu veux, ils te proposent l'option. J'ai eu 2-3 bugs, mais je pense que ça va être fixé. Je suis allé sur la page de discussion Steam, ils avaient l'air d'être assez actifs pour corriger les bugs au fur et à mesure. Localisé en français, ça c'est, il faut le préciser. Enfin localisé, sous-titré, traduit, y compris hard traduit dans les enfin il y a des textes qui sont pas écrits, qui sont c'est du graphisme en fait, et c'est traduit. Là je vois qu'ils sont en train petit à petit de remplacer des illustrations qu'il y a dans le jeu. Ils sont en train de mettre des versions HD des illustrations. Si vous voulez l'OST, elle est disponible en FLAC dans le jeu. Si vous rajoutez quelques euros en FLAC.
Ouais, en FLAC. Fichier FLAC.
What the fuck? Bah, très bien. Vous pourrez l'écouter sur vos grosses enceintes, machin. Alors après, est-ce que je le recommande? C'est compliqué. Est-ce que vous aimez le boulot de Souda 51? Si oui, pour moi, c'est son meilleur jeu. Sinon.
C'est 20 euros. Enfin, je sais pas. Je trouve que.
Tu le mets au-dessus de No More Heroes et compagnie?
En ce qui me concerne, oui. Parce qu'il y a une cohérence générale et je trouve qu'il y a peu de faux pas. Ou en tout cas, que chaque choix qu'ils ont fait, même si ça nous plaît pas, il est justifié. Dans No More Heroes, par exemple, le monde ouvert, il n'était pas justifié. Tu vois, et pourtant, c'était une grosse partie.
Justement.
Le monde ouvert, il servait à rien. Il était tout vide et tout. Et d'ailleurs, dans le 2, ils l'ont supprimé. Preuve qu'ils se sont rendu compte qu'il servait à rien. Mais là, dans ce jeu-là, on sent que Capcom a donné du temps, des moyens et des inspirations à Souda 51 pour faire un jeu qui lui ressemble et qui était, on va dire, fini de bout en bout. Et je trouve que vraiment, c'est un grand jeu. C'est vraiment un grand jeu. Moi, à titre personnel, c'est vraiment un de mes jeux favoris de tous les temps. Mais je peux comprendre que il soit compliqué à aborder pour plein de gens. Du coup, je vous conseille peut-être de regarder maintenant on est quand même en 2018 bientôt 2019 et ça fait plaisir de pouvoir aller sur internet voir des gens jouer, comprendre si ça nous fait plaisir ou pas, et surtout si vous êtes froussard, faites gaffe, il y a quand même des ambiances ultra malsaines, il y a du gore un peu, on peut vite être flippé, surtout quand les zombies genre on scanne, il est devant nous, enfin voilà, on peut avoir des petits sursauts de peur. Et pour tout le reste, si vous êtes prêt à vivre une expérience un peu unique, je vous encourage à jouer à Killer 7. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait qu'il soit porté à ce jeu. C'est le plaisir.
Et il a passé le temps, en fait, visuellement.
C'est exactement le même débat qu'on avait eu, je ne sais pas si on l'avait eu ici, mais sur Wind Waker HD, qui avait extrêmement bien vieilli.
C'est
le cel shading, pour ça, c'est formidable.
Dessin animé,
Alors, c'est un anniversaire, pour continuer.
On l'aura fêté, ce 40e anniversaire SNK.
On l'aura fêté, celui donc de SNK. Et ils ont 40 ans, c'est ça, Patrick.
C'est le 40e anniversaire actuellement. Alors, on avait parlé, Camille, ici même, la semaine dernière, de la Neo Geo Mini, cette mini-console, on va pas revenir dessus.
Ça fait débat sur les forums.
Oui, j'ai vu ça, notamment l'édition Christmas, on a peut-être été un peu gentil avec, c'est vrai que c'est un peu scandaleux au niveau commercial de la sortir juste après le modèle original, je suis assez d'accord. Alors là, c'est vraiment une bonne surprise pour moi. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Je l'ai pris un petit peu en me disant, allez, rétro. Et puis moi, surtout, il y a des titres. Cette compile, elle brosse en une bonne dizaine, je crois 13 ou 14 titres. Ce que moi, j'appelle l'ère pré-Neo Geo chez SNK. C'est-à-dire, c'est le SNK avant la spécialisation dans le versus fighting et tout ce qui va faire l'âge d'or de la Neo Geo. Alors moi, c'est vraiment une compilation qui me parle immédiatement parce que tu me dis Ikari Warriors, moi tout de suite j'ai l'oreille qui se tend parce que j'y ai tellement joué sur Amstrad à l'époque, c'était un de mes jeux fétiches que je préférais même à Commando. C'est un peu honteux de le dire parce que Commando, il a créé quasiment le genre, mais moi Ikari Warriors, on pouvait y jouer à deux, c'était terrible. Donc voilà, ce qui est intéressant dans cette compile, donc, c'est qu'on on retrouve donc, sur Switch, hein, c'est vraiment une compile qui est faite pour la Switch. Elle nous permet vraiment de nous replonger dans, dans ce SNK de l'époque, où le jeu d'action comme ça, genre Rambo des années 80, où on part tout seul ou à deux, buter du soldat ennemi comme ça au kilo. SNK avait vraiment réussi à marquer le genre après donc, Commando de Capcom. Donc là, on a les trois, par exemple, les trois Ikari Warriors, l'original, le deuxième qui partait dans des délires un petit peu fantastiques, bizarre, et le 3, mais qui nous tuerie avec des sprites énormes. C'est un vrai bonheur de se relancer, se replonger dedans. C'est une compile, je regarde, il y a aussi Guerrier Wars dans le même genre, pareil, hein, le soldat tout seul. Voilà, c'est vraiment des jeux moi, qui me parlent et que j'adore. Une autre pépite, moi, qui fait partie du line-up du catalogue, c'est Prisoner of War, Beat'em All, ambiance pareille, militaire des années 80. C'est vraiment de la très très bonne hein, dans le genre. Prehistoric Isle aussi, donc ça c'est du shoot 'em up avec ambiance King Kong avec des dinosaures géants qu'on tabasse.
C'est cinématographique tous ces jeux quand même.
C'est ça qui est excellent. C'est
très série B.
Mais exactement, et moi ça me parle, tu te doutes bien tout de suite, ça me parle tout de suite. Il y a plein de jeux dans des jeux de plateforme. Athena qui est un jeu mythique aussi. Ce qui est intéressant dans cette compile, c'est que pour une fois, je trouve que l'éditeur a fait le boulot. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment essayé de valoriser ce catalogue de 13-14 jeux. Ils ont fait du beau travail. C'est-à-dire c'est tout bête, on a une belle interface avec une belle musique. On a un vrai contenu encyclopédique. Alors ça, c'est tout bête. Hein, je parle souvent des compiles. On avait parlé de la compile Street Fighter, des compiles Capcom, on en a fait quelques-unes. Là, je trouve qu'ils ont fait un vrai travail encyclopédique. C'est-à-dire que chaque titre, tu as les pistes musicales que tu peux écouter des pistes musicales. Tu as des infos... du texte sur le contexte du jeu, etc. Tu as des artworks, tu as des publicités, des flyers, tu as des artworks, des images de la borne d'arcade. Donc ça, tout ça, il y a plein de fichiers comme ça qu'on peut zoomer en HD.
Il l'avait fait aussi, non ?
Dans Megaman, il y avait... Ah oui, non, mais Capcom a déjà fait des choses dans ce genre-là. Mais je trouve que là ils ont vraiment fait un beau travail d'enrichissement. Et pour moi, je trouve que c'est primordial. On avait déjà eu des compiles, je me rappelle Atari, où il n'y avait rien. Et c'est dommage, parce que c'est... Le type qui s'achète une compile comme ça, il a un affect, évidemment. Enfin, on n'achète pas ça par hasard. Hein. En général, on a un affect avec les titres. Et du coup, on est toujours ravis d'avoir des artworks qu'on va pouvoir zoomer, regarder. Et puis, il y a une vraie base de données vraiment, vraiment intéressante. C'est bien fichu aussi parce qu'on a en général, quand c'est possible, le choix entre la version arcade ou console domestique, souvent NES, des jeux. Pareil, quand ça peut être intéressant de comparer un petit peu le delta entre les différentes versions, de voir comment c'était adapté. Voilà, il y a ce regard aussi un peu d'historien du jeu, c'est toujours intéressant. On a aussi, alors c'est tout bête, hein, vous allez me dire, mais je ne l'avais pas encore vu sur Switch, c'est le passage de l'écran en vertical sur un Ikari Warriors.
Alors c'est très bizarre, j'allais te poser la question parce que je trouvais que justement un Ikari Warriors,
ben oui,
la Switch en vertical, ça allait être super bien.
Ils l'ont fait. Ah. Donc tu peux jouer à Ikari Warriors comme ça, tu replonges. Alors, je crois qu'il y a un stand qui devait sortir, un accessoire qui devait permettre de mettre la console comme ça. Ils l'ont fait, donc c'est cool, toi t'es content, tu te lances ton Ikari Warriors, t'es content. Il y a un mode watch dans le jeu qui te permet de lancer une partie comme un walkthrough sur YouTube où tu vois le jeu se dérouler devant toi. Donc c'est des choses. Il y a un mode rewind aussi. On sent qu'ils ont, ils ont implémenté toutes les petites options qui font que c'est intéressant d'avoir ces versions du jeu. Là en l'occurrence sur, on a des filtres évidemment, les filtres arcade, les filtres de télé. Il y a des petits, tout ça est bien complet. 14 titres, et surtout, ce qui est intéressant, et là,
Maryse, 14 titres,
Maryse. SNK a prévu un DLC gratuit. Le mot gratuit est très important, là, qui arrive dans la semaine qui vient, avec 11 jeux en plus qui vont s'ajouter. Donc, on va arriver quand même... arriver à 25, 26 titres, dont des Time Soldiers, des Bermuda Triangle, Beast Buster, donc des jeux pareils, qui partent un peu dans tous les sens, du shoot'em up, du jeu de...
Il fait bon être gamer en ce moment, surtout sur Switch.
Alors, moi, je dis, ça vaut une quarantaine d'euros, là on va avoir bientôt 25 titres. Une quarantaine,
c'est cher.
C'est un peu cher.
Quand tu vois les ratios, ça fait quoi? Ça fait même, tu vois, quand t'arrives à 25 jeux.
Non, mais c'est... Non, tu peux dire ce que tu veux pour des jeux arcade de cette époque-là.
Ah, moi, je l'ai pris direct pour les Ikari Warriors, tu vois, direct.
Ça fait combien le jeu?
Ça fait un peu moins de 2 quand même, moins de 2 euros le jeu.
C'est cher.
Alors tous ne le valent pas forcément.
Voilà, c'est ça le
mais
truc.
T'as des... Moi, pour moi, il y a tellement
C'est cher, 40 euros.
T'as des vraies perles dedans. Enfin, moi, je peux
c'est
pas.
C'est cher. Non, je suis désolé, Patrick, c'est super cher.
Ouais, mais
cher.
T'as Ikari Warriors Warrior dans ta poche. Tu peux lancer une partie dans le métro.
Cela dit, c'est 40 prix conseillés, à mon avis. Tu trouveras assez rapidement.
Même en occasion, ça peut se trouver en occasion. Mais voilà, moi, je trouve que quand une compile est bien faite et que tu sens qu'il y a eu vraiment un travail soigné dessus, il faut le dire. Parce qu'il y a tellement de compiles vides qui sont même. Enfin, voilà, qui sont déprimantes. Là, franchement, c'est joli, c'est bien fichu. Il y a plein de petites options. Le catalogue, bah, il le mettre à jour. Bon, c'est dommage que ce soit pas intégré dans la cartouche, mais c'est mis à jour gratuitement. Moi, je trouve que vraiment, belle compile, et voilà, Ikari Warriors, Prisoner of War, incontournable, incontournable, voilà.
C'est toujours un plaisir de t'entendre parler sur ces jeux-là, Patrick.
Ah, mais moi, je prends mon pied à refaire Ikari Warriors, c'est vraiment très très bon.
Alors, je me suis sacrifié. Bon, on va passer à la suite. Hein. Je me suis sacrifié. Alors, parce que j'ai eu une bonne résolution. Je vous ai parlé de ma bonne résolution.
Arrêtez de jouer à Slay the Spire.
Non, arrête. Non, arrêtez
c'est
de
pas
jouer.
Lié, non, c'était pas lié des non. NBA ou.
Bon, non, mais j'en prends des bonnes résolutions tout le temps. Mais ma vraie bonne résolution, c'est arrêter de jouer à des jeux qui demandent de revenir tous les jours pour ouvrir des trucs débiles.
Ah ouais, c'est chaud ça. Ouais.
Ouais. Mais non, mais j'avais quand même. Donc cette année, l'année 2018, c'est quand même l'année où j'ai arrêté Hearthstone. Hearthstone, c'est ça. Hearthstone, récompense
c'est
quotidienne.
C'est pas triste quand tu lances un jeu sans avoir envie que tu le lances juste pour débloquer des trucs.
Mais c'est parce que je me suis rendu compte de ça.
Ouais,
J'ai pas encore totalement décroché. Hein. Je joue encore à Clash Royale. Il y a même un clan Silence en Clash. Bref.
D'accord.
mais bon, j'assume. C'est rigolo. C'est un bon jeu. Mais je me suis promis de ne plus jamais me lancer sérieusement dans ce genre. Mais bon. Valve qui sort un TCG, hein, donc Card Collector Game, Trading Card Game. C'est quoi c'est un genre qui est quand même voilà, assez installé. On a quand même des gros acteurs, hein, évidemment, avec Hearthstone, donc, qui tient un peu la barque sur. Et puis Magic, The Gathering, hein, qui essaye de revenir avec un jeu assez ambitieux.
Pour la 36e fois.
Pour la 36e fois. Mais il y a des acteurs, mais Valve, c'est pas n'importe qui. Valve qui arrive face à Blizzard, c'est toujours quelque chose qui est intéressant, surtout sur des jeux qui sont destinés à truster les premières places de Twitch. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose, Valve qui se lance dans son TCG. Alors, c'est quoi Artifact ? Bon, déjà, on écoute. On écoute, mais pas trop, parce qu'on s'en fout d'une musique hein, dans les jeux de cartes à collectionner. Hein, on s'en fout. C'est quoi Artifact ? Eh ben, c'est compliqué. Alors, je me suis dit, mais comment je vais expliquer Artifact dans Silence on Joue ? Eh ben, dites-vous bien que j'ai fait quoi ? J'ai pris la notice Wikipédia, qui est très bien faite.
Très bien.
Je vais vous lire la notice Wikipédia, je pense que ça a été jamais fait. Mais parce que, alors, vous êtes prêts ? Non, parce que je vois que tu es sur ton téléphone, Quentin. S'il vous plaît, un peu d'attention. Donc, je vais commencer. Donc, chaque deck se compose de 5 héros et d'un minimum de 40 cartes. Plus de 40 héros et de 280 cartes sont disponibles dès le lancement du jeu. Chaque carte dispose de sa propre rareté, bronze, argent ou or, et de sa propre couleur, rouge, vert, noir ou bleu. Pour jouer une carte, le joueur doit avoir un héros de la couleur correspondante dans sa zone. Oui, parce que, alors ça, ils ne le disent pas dans Wikipédia, mais il y a 3 zones, on y reviendra. Chaque zone bénéficie également d'une réserve de mana propre qui peut être utilisée pour jouer des cartes dont la valeur augmente d'un point de mana chaque manche. Les zones, pas les cartes. Il existe également des objets qui peuvent être équipés par les héros et utilisés dans n'importe quelle zone. Une fois les deux joueurs ont joué leurs cartes, les héros et les cryptides, oui les cryptides, des créatures plus faibles qui ne peuvent pas être contrôlées, attaquent et ceux qui se trouvent devant eux, y compris la tour, si aucune unité ne les bloque. Et sur chacune des 3 zones de jeu, oui il y a 3 zones, je vous l'ai dit. Par la suite, la phase d'achat débute, permettant aux joueurs de dépenser de l'or, oui parce qu'il y a aussi de l'or, obtenu en tuant des unités. Cet or peut être utilisé pour acheter des objets consommables. Oui, il y a aussi des objets consommables.
Ou des cartes, j'imagine.
Ou des objets, oui, des cartes que les héros peuvent équiper dans les 3 emplacements différents, armes, armures et accessoires. Donc c'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce de mise dit, mettons, je lance de 16 ou je lance de 32, ou une quadruplée comme on l'appelle, c'est une lance de 64 parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à la gauche soit il monte de moins de 4, soit il passe et il dit passe grelot. Soit. Là j'ai changé, oui.
T'es passé sur du Kaamelott.
T'as perdu les auditeurs.
C'est le jeu de la chouette.
C'est le jeu de la grelottine.
Ah, mais je vous ai pas parlé des Crystalis, au fait. Il y avait Crystalis aussi dans la compil SNK. Ah, ça me revient un seul coup. Là,
et on peut l'équiper sur une des zones ou pas ?
Je pense pas, non. Dommage.
Alors, en vrai, j'ai compris. Parce que je perçois le truc. Parce qu'on est tellement habitué avec les jeux de cartes, type Project Red, The Witcher.
Le jeu du Witcher.
Gwent.
Et celui, c'est quoi ? C'est Elder Scrolls Legacy aussi, oui. Où t'as plusieurs zones, t'as deux zones. Je crois que j'ai à peu près compris.
Ah ouais.
Mais c'est complexe, par contre, pour un jeu de cartes. Hein.
Ça fait pas envie comme ça.
C'est l'anti-Hearthstone. Il est très simple et là je trouve que c'est très compliqué.
Alors l'ambition, on la comprend très vite. C'est une sorte de mix parce qu'il y a des gens qui essayent de faire un mix entre quoi et quoi ? Entre un MOBA et un TCG. C'est-à-dire que le MOBA, c'est quoi ? C'est les trois lanes. C'est ces petites créatures, les creeps, qui pop automatiquement et qui remplissent ces trois lanes. Et les joueurs jouent des héros qui vont combattre les creeps pour gagner les tours et gagner les lanes petit à petit et abattre la tour qui est... Ça, c'est MOBA. Ça, c'est à peu près MOBA. Enfin, moi, je comprends jamais rien au MOBA, mais bon, j'ai compris ça. Et là, en fait, l'idée, c'est de faire un mix entre un MOBA et un jeu de cartes. Donc, pour chaque lane des MOBA, il y a des zones de jeu. Et en fait, il va y avoir une confrontation entre chaque joueur dans chaque zone de jeu qui vont se jouer chacune donc, au tour par tour. Donc, on va d'abord jouer la zone 1, et puis la zone 2, puis la zone 3, et puis on recommence.
Mmh. Et si tu gagnes deux zones, t'as gagné après.
Et si tu gagnes deux tours, t'as gagné. Mais si tu gagnes une tour, une tour, ça a 40 points de vie. Et bien, si tu gagnes une tour, apparaît un machin qui a 80 points de vie et tu peux continuer à attaquer la même tour. Mmh. Et si tu abats définitivement une des zones, t'as gagné le match.
Mais tu t'en parles comme ça, pour moi, c'est plutôt à mi-chemin entre Magic et Clash Royale, en fait, ce que tu racontes.
Non, alors ça n'a rien à voir avec Clash Royale pour le coup, parce que t'as pas de déplacement d'unité, t'as pas de.
Mais dans Clash Royale non plus, tu poses juste des cartes et elles se déplacent toutes seules.
Oui, elles se déplacent toutes seules.
Il y a des tours à abattre aussi.
Il y a un côté espace, enfin, tu gères aussi l'espace quand même.
Un côté tactical un peu plus.
Alors, c'est compliqué Artifact, c'est compliqué à jouer, c'est compliqué à en parler. Pourquoi ? Parce que, alors, on va commencer par parler les points positifs. Ouais. Le point positif, l'interface. Système, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un jeu ultra compliqué, mais au moins, ils se sont dit, on va bosser l'interface.
Ouais.
Hein, parce que c'est tellement... Les points négatifs, c'est que c'est sinistre. D'une part, c'est sinistre parce que, alors, autant Hearthstone, on peut avoir... un jeu de cartes, c'est quand même, on pose des cartes, quoi. C'est dans le genre, on va dire, potentialité de génération de fun, on est relativement limité dans un jeu de cartes. Hein. On pose des cartes. Donc,
peut-être le fun se fait dans la construction.
Mais Hearthstone, ils arrivaient justement en termes de rythme. C'est un jeu qui peut se jouer rapidement. C'est un jeu avec des belles animations, avec des cartes marrantes. Easy to play, difficult to master, entre guillemets, quoi. Il y a un côté hyper accessible de Hearthstone qui rend le truc convivial. Mm. Là, c'est sinistre. Tu ne t'amuses pas dans une partie de Artifact. Tu réfléchis, t'essayes de comprendre ce qui se passe, t'essayes d'anticiper les trucs, tu ne t'amuses pas. C'est sinistre. C'est beaucoup trop compliqué. Comme je vous l'ai dit, le nombre d'indicateurs différents qu'il y a dans une partie. Donc il y a trois zones, il y a des améliorations, donc des cartes qui. Alors il y a donc trois. On va
y
faire
y a
le.
Deux currencies déjà, c'est mort. T'as mana plus gold, c'est fini.
T'as
pour
mana plus gold. Plus t'as des slots de partout, donc t'as des héros à poser, des types de cartes à poser, t'en as 12 milliards, t'as des héros, t'as des sorts, t'as des améliorations, t'as des objets, t'as des objets qui vont faire des effets, t'as des objets qui vont s'équiper sur les héros, les golds, tu vas les gagner si tu tues des creeps adverses, si tu tues des héros adverses que tu vas pouvoir dépenser à la fin des trois tours. Chaque tour... En soi, donc il y a trois zones. Chaque tour se définit, se passe dans. Il faut jouer les trois zones. Et chaque zone, c'est du tour par tour. Donc tu joues une carte, mais si tu fais rien, tu attends que l'autre il joue une carte. Et si l'autre il a joué une carte, ça va être re à toi de jouer. Mmh. Et donc le tour ne s'arrête que quand les deux joueurs ne jouent rien. Donc il y a. En fait, tu as l'impression qu'il y a potentiellement une profondeur, elle doit être là, elle doit être là. Je pense que les gens de Valve, ils ont bossé la profondeur de leur jeu. Sauf qu'il y a un moment, il faut aussi penser à une profondeur du jeu, il faut des plongeurs.
Ouais.
Il faut des gens qui aillent chercher la profondeur. Et le problème, c'est qu'à aucun moment, si tu veux...
Personne ne va aller briser la glace, quoi, en fait.
Personne ne va aller jusque-là. Pour vous dire, Hearthstone, quand on commence à jouer à Hearthstone, on découvre, on fait le tutoriel, on fait, commence à créer ses propres decks, à machin. Et puis, à un moment, on se dit, ah, ce serait cool si j'apprenais à découvrir comment les vrais joueurs jouent et tout. Et là, on va sur Twitch ou sur YouTube ou sur des sites spécialisés. Mais on a déjà découvert le jeu. Là, tu lances Artifact, ton premier réflexe, c'est d'aller sur Twitch.
Ouais.
Tu dis, je ne peux pas, je ne peux pas tout seul comprendre comment ça marche.
Mmh. Donc, le jeu ne te prend pas par la main. Quoi.
Et tu fais deux parties d'entraînement avec des decks déjà construits, etc. Donc tu comprends un peu le principe. Mais une fois que tu as fini tes deux parties d'entraînement, tu dis, mais tu ouvres tes 10 boosters. Alors oui, parce que nous sommes sur un free-to-play payant. C'est à 17 euros le jeu. Il n'est pas free-to-play. Le mécanisme, c'est un mécanisme free-to-play. Mais il faut payer 17 euros. C'est le prix des 10 boosters, grosso modo.
Il y a des trucs positifs dedans ou cela, ce que tu en dis, c'est...
Non.
D'accord, ok.
Non, mais j'y ai joué parce qu'il fallait, pour en dire d'une manière assez certaine du mal, c'était compliqué. Il y a des choses complètement aberrantes. Les cartes, par exemple, ne sont pas destructibles. C'est-à-dire, le principe aussi d'un jeu de cartes à collectionner, c'est qu'à un moment, tu vas détruire des cartes pour créer de la poussière, pour pouvoir crafter des cartes d'autres cartes. Là, non. En fait, les cartes, tu peux les vendre.
Ouais.
Contre des euros sur le store.
Ah bah oui, ah, oui mais... c'est logique. Ça va, c'est logique dans l'univers Valve en fait.
Et tu peux en acheter d'autres. Enfin, on est sur un système. Sachant que c'est malsain, mais ils ont a priori il y a une sorte de faiblesse là dans le système d'échange. Il est tellement complexe que là Valve ils ont mis en une sorte de système d'échange infini. Ce qui fait que pour l'instant c'est un free-to-play payant parce que pour acheter un booster, le booster il est à 1,50€ quand même, quoi. Il est hyper cher, mais alors tu commences avec 5 tickets qui vont te permettre les tickets de faire des combats avec des drafts, donc dans les jeux
de cartes. Et tu gardes les cartes après ?
Et en fait il y a un système où tu peux garder les cartes et ensuite après tu peux obtenir des tickets en refilant contre 20 cartes, n'importe lesquelles en fait, les common, uncommon. Ce qui fait qu'a priori t'as assez vite, sauf si tu merdes vraiment tous tes drafts et tu fais zéro victoire, t'as assez vite une sorte de cycle infini qui se crée.
Un cercle vertueux de récupération de
cartes. Sauf que, en fait, le seul problème, c'est que le vrai sacrifice, c'est le temps de jeu. C'est-à-dire que en fait, le temps de jeu est tellement sinistre et glauque à la fin.
T'as peut-être autre chose à faire de ta vie, en fait.
Mais voilà, t'as autre chose à faire.
C'est la question dramatique
que de jouer à Artifact pour gagner des tickets d'entrée au futur draft qui te permettront d'avoir des cartes.
En fait.
Voilà, non.
Et le jeu est sorti ou est-ce qu'il est en early access pour l'instant ?
Non, il est sorti. Il est en bêta depuis début 2018. Donc il a été en bêta fermé. Et là, il est.
Viens faire du Guerrier Warriors, Erwan. Tu vois, on s'amuse, on s'éclate.
Ah non, mais alors là, pour le coup, je n'y retournerai pas.
T'allumes ta Switch, tu fais une partie vite fait. Et puis voilà, t'es bien, t'es content.
Mais c'est... En fait, alors, ce qui est impressionnant, j'arrive pas à
tu
comprendre...
Tu fais du mal, là.
Non, mais en fait, la question qui est vraiment à se poser, c'est quand même Valve. C'est pas rien, Valve. Ouais. C'est pas n'importe qui, quoi, qui se lance dans le TCG. Et avoir créé un
pas
truc...
pas d'expérience dans le TCG non plus.
Mais ouais, mais sauf qu'avoir créé un truc comme ça, de toute pièce... qui tape aussi à côté, enfin aussi loin des joueurs, parce que c'est ça, ça tape loin des joueurs. Enfin, je veux dire, il suffit quand même de regarder Hearthstone pour comprendre que il faut qu'un jeu de cartes à collectionner soit hyper accessible, qu'on comprenne vite de quoi il s'agit. Et là, ils ont pas fait ça.
Pour moi, la limite à pas dépasser aujourd'hui, c'est Magic. Magic, aujourd'hui, on sortirait Magic ou un équivalent.
Déjà,
pour moi, c'est trop compliqué pour Magic. Les notions de pile et tout, elles sont super d'un point de vue game design. Moi, j'apprécie beaucoup. Ça donne des matchs très intéressants à haut niveau. Mais c'est vrai que c'est compliqué à entrer dedans. Il faut être initié, quoi. Il faut être initié par quelqu'un.
Alors, j'ai l'impression, mais alors, pour le coup, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le game design est cohérent. Que l'ensemble du truc peut créer une méta et un jeu profond intéressant, mais c'est inaccessible.
Ouais, tu peux organiser la plus belle fête du monde, s'il n'y a pas de porte d'entrée, tu n'auras pas d'invité. Tu vois ce que je veux dire ?
Et les parties sont ultra longues, et je te dis, je vais redire mon mot-clé depuis le début, c'est sinistre. Voilà. Ça s'appelle Artifact, c'est à 17 euros sur Steam. Voilà.
Ah, tu me l'as vendu.
Mais des fois, il faut.
Il faut taper du poing sur la table, Erwan.
Exact.
Tu vois la compile Tu as
encore pris ton accent. Tu
ah
l'as pris.
Oui. Non, mais c'est un personnage alternatif. Des fois, il a l'accent du sud, des fois, il a l'accent du nord.
Oui, c'est étonnant, ça.
Ouais. Ouais. Je prendrai un accent québécois un de ces jours pour changer.
Tu vois, 17 euros, ouais. Tu vois, tu parlais de la compil SNK. Moi, je suis désolé.
Ah non, mais c'est hors de prix. Ah non, mais c'est hors de prix.
C'est pas possible, quoi.
Non, tout à fait. Ouais, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Je crois pas, je vous ai pas parlé d'Overlord, un film que je suis allé voir il y a quelques temps. Non, je vous en ai pas parlé. Alors moi je l'attendais pas mal parce qu'il avait été un temps annoncé comme faisant partie de l'univers étendu Cloverfield. Vous savez qui comprend plusieurs films. La rumeur c'était qu'il s'intégrait dedans, en fait pas du tout. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça que je l'ai suivi de près.
En fait, c'est un film intimiste français rien
avec,
à voir
avec deux personnages déprimés. Non, pas du tout en fait. Non, ça se passe Seconde Guerre mondiale en fait, un bataillon américain qui débarque en France et qui va tomber sur des nazis qui font des expérimentations et qui créent des nazis zombies, évidemment. Ah bah oui, bah c'est ça. Alors ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait c'est une sorte de Wolfenstein en adapté non officiel. En fait c'est ça moi qui m'a fait marrer. Alors c'est loin, très loin d'être le film de l'année. Après moi je le range gentiment dans la case plaisir coupable, tu sais, du film qui
le nanar plus,
ouais, où tu prends plaisir vraiment à le voir. Ça va pas très loin, il te délivre en gros ce qu'il te dit dans le titre, parce que voilà, c'est pas dans le titre, mais voilà, le pitch résume bien le film. Ça va pas beaucoup plus loin, mais t'as des bons moments assez réussis. Et puis encore une fois, moi je me dis, bah tiens, c'est peut-être un peu, ouais, il y a un côté Wolfenstein quoi, avec voilà, nazi zombie quoi.
Ça, c'est Patrick Corr, hein, nazi zombie, manque des dinosaures. Et des aliens.
Et on a presque tout. Ouais.
Voilà, on a presque tout.
Mais ouais, non, sympa, Overlord, sympa. Pas film de l'année, mais sympa.
Corentin.
Alors, comme pour DDDDD la dernière fois, j'ai peut-être dû déjà parler de ça, mais bon, comme ça sort sur des mois, et bon, j'en parle parce que c'est ce que je fais actuellement. Mais voilà, je continue de lire Minuscule de Takuto Kashiki. C'est un seinen, donc un manga plutôt pour les jeunes adultes, et c'est de la tranche de vie. Donc en fait, on suit le quotidien de deux lilliputiens, on va dire, Akume et Mikoshi, et qui vivent des palpitantes aventures comme j'ai besoin de faire une confiture pour la foire du coin, ou alors on a un voyage en train et on va lire tout un chapitre sur le voyage en train, tiens, j'ai envie d'acheter un café au wagon bar, viens, oh, je peux ouvrir la fenêtre mais est-ce que je vais déranger mes voisins, tiens, regarde comme c'est joli le matin qui se lève, voilà, donc c'est palpitant, mais en vrai c'est super parce que dans ce monde où tout va trop vite, Erwan, eh ben on est content de pouvoir vivre aussi au rythme de la nature et des choses simples.
Donc comme des tartines. Je le vois s'agiter, vous le voyez pas, mais il s'agite, il est pas bien là.
Alors, l'avantage de Minuscule, c'est que, comme son nom l'indique, ça se passe avec des personnages minuscules, donc dans des décors immenses. Donc en fait, chaque chose prend vraiment des dimensions énormes et les décors sont merveilleusement bien faits. Vraiment un trait précis qui permet de s'y croire, alors que c'est en noir et blanc et tout ça. Mais vraiment, c'est très, très, très chouette. On a 5 tomes en France, le 5e vient de sortir. Il y en a 6 au Japon, je sais pas quand la suite sortira. C'est édité chez Komiku, je recommande à tous ceux qui veulent souffler un peu et juste savourer au travers des aventures calmes d'une bonne tartine de confiture en papier. Voilà.
Pour ma part, je continue mon exploration des podcasts et j'ai donc écouté, je ne l'ai pas fini, je suis à la fin de l'avant-dernier épisode, donc il me reste un épisode. Ça s'appelle Le Canon sur la Tempe, c'est une production Nouvelles Écoutes. Et on est sur du podcast narratif, donc comment on appelle du podcast narratif, c'est qui raconte une histoire. Et là, c'est assez étonnant, voilà, c'est Alexandre Moniol donc, qui réalise ce podcast et qui vient de Béziers, donc toute sa famille vient de Béziers. Et en fait, à Béziers, le 10 juillet 1993, il s'est passé une tragédie. C'est un ancien rugbyman de l'équipe de France, 10 fois champion de France, qui s'appelle Armand Vaquerin. Eh bien, il est mort. Il est mort le 10 juillet 1993. Ce qui se raconte, c'était dans un bar et il aurait joué à la roulette russe. Et voilà, donc fait divers. Et c'était une personnalité, c'est une légende. Il y a une statue de lui à Béziers aujourd'hui.
J'ai lu cette histoire sur la page Wikipédia de la roulette russe. Et
c'est, qu'est-ce que t'allais faire là-dessus, toi?
C'est passionnant, on va lire la page Wikipédia de la roulette russe, tu vois.
Mais quand même, il y a les gens qui étaient là. Alors, il y a les gens qui étaient là sur place, il y a les gens qui n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là disent qu'ils étaient là, ceux qui étaient là disent qu'ils n'étaient pas là.
C'est une mythologie un peu autour.
Et Alexandre Moniol décide de partir à la recherche de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour?
C'est le serial à la française.
Alors voilà. Alors voilà, c'est le sériel à la française. Alors c'est peut-être qui est un peu déroutant au début, avec ce canon sur la tempe. Alors oui, quand on dit c'est le sériel à la française, c'est assumé, d'une part parce que c'est un événement des années 90, comme la première saison de sériel. Et puis il y a la musique aussi. La musique, c'est Marc-Henri Philips, donc, qui est le compositeur de sériel, qui fait la musique.
Là, on peut pas,
donc c'est assumé.
On peut pas se tromper.
C'est assumé, sauf que pour ceux qui s'attendaient à un sériel à la française, le début est hyper déroutant. Et hyper déroutant parce que Alexandre Moniol, eh ben, il va voir sa famille. C'est-à-dire que, eh ben, il retourne à Béziers et puis il part sur les traces d'Armand Vacrin et il va voir sa famille parce que son père était un ancien rugbyman professionnel, son oncle aussi. Et finalement, on entend le grand-père, la grand-mère, le père, la famille d'Armand Vacrin, ouais, de Alexandre Moniol. Et en fait, mais non, mais le
c'est
truc.
C'est incarné, quoi. C'est embed. C'est
super embed. Ouais. Mais en fait, on sait pas si on est dans une enquête ou dans le making-of d'une enquête.
Ouais.
Et finalement, à partir du deuxième, du troisième, on finit par s'installer dans un format très très spécifique qui n'est pas un sérial à la française, qui n'est pas une enquête où on refait une enquête policière, etc. C'est presque une enquête de voisinage avec des gens, mais ça va loin. Ils découvrent des choses et on en saura plus, on en sait plus. Alors moi, je l'ai pas fini, il me reste encore un épisode.
On en saura plus sur
ce qui s'est passé. Ouais, et puis on découvre sa personnalité de ce Armand Vacrin. Moi, j'ai pas une culture de rugbyman,
intéressant.
Enfin, c'est super intéressant. C'est 7 épisodes de 3 quarts d'heure à chaque fois, de 45 cool. minutes. Et franchement, je vous conseille. Voilà, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est un vrai format particulier. En tout cas, joli boulot d'Alexandre Moniol là-dessus.
Sachant que pour ceux qui ne savent pas, un serial est au podcast ce que Dark Souls est au jeu vidéo. Tu ne peux pas l'évoquer sans énerver beaucoup de monde.
Je suis en train de me réécouter la première saison. Je vous jure, c'est trop.
Ouais, mais c'est passionnant. Et en fait, la fascination que j'ai sur Making a Murderer, par exemple, c'est un peu la même que.
Tout
on a sur Serial ou j'imagine sur un canon sur la tempe, quoi.
Voilà, merci. C'était Jules Gélaoui à la réalisation. Ouais, j'ai pas oublié. Merci à tous les deux et nous on se retrouve très bientôt, très vite sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
This is the summer to expand your horizons. You've had enough staying home. You've had enough confinement. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds, like the breathable, silky, smooth Tree Runner, the responsive foam and extra grip of the Tree Dasher, or the classic low-top look of the Tree Piper. Allbirds has a shoe ready for whatever adventures you have planned. Whether you're traveling to the ends of the earth or settling in for a staycation, you need a shoe that's versatile enough to go with any outfit, durable enough to wear over any terrain, and lightweight enough to make packing a breeze. Being made from insanely comfortable, breezy eucalyptus fiber is a plus, too. When you wear Allbirds tree shoes, you're in vacation mode before you even leave the house. They're the only shoes your suitcase needs. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair of tree dashers, runners, pipers, and more at Allbirds.com. That's Allbirds.com.